travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Je serai la seule candidate communiste dans cette élection présidentielle. Depuis ses débuts, le courant communiste s'est employé à défendre la perspective de la révolution sociale, la perspective d'une société sans classe sociale, sans l'exploitation capitaliste. Le courant communiste a toujours opposé à la politique bourgeoise une politique ouvrière, opposé aux valeurs de la bourgeoisie les revendications des ouvriers. Alors que la plupart des représentants politiques n'ont que les mots liberté, égalité, fraternité à la bouche, le courant communiste les a toujours dénoncés comme des mots creux pour les travailleurs. Parce que dans une société où presque tout se vend et s'achète, pour être réellement libre, eh bien, il faut être riche. Et quelle est l'égalité et la justice quand les uns passent leur vie au travail pour survivre, alors que d'autres brassent les milliards qu'ils ont prélevés sur l'exploitation? Et quelle est la place de la fraternité dans ce système capitaliste où seule la rentabilité et le profit comptent? On nous parle de république et de démocratie, mais c'est le droit du plus fort, c'est le pouvoir absolu du capital et l'arbitraire des plus riches. Les injustices, les inégalités ont toujours été combattues par le courant communiste révolutionnaire. Et ce courant a systématiquement pris le contre-pied du fatalisme et de l'acceptation prêchée par la bourgeoisie. Et il s'est battu, au contraire, pour que les travailleurs qui font tout tourner dans cette économie prennent conscience qu'ils peuvent aussi la diriger et qu'ils pourraient collectivement le faire mille fois mieux que ne le font aujourd'hui les capitalistes. Le courant communiste révolutionnaire a toujours refusé de s'intégrer au système politique de la bourgeoisie, mais il a toujours tenu à se faire entendre dans toutes les élections. Et c'est ce courant que je veux représenter dans cette campagne pour l'élection présidentielle. Toutes celles et ceux qui sont convaincus que cette société d'exploitation est à renverser et qu'il n'y a rien à garder du système capitaliste doivent l'affirmer. Toutes celles et ceux qui sont fiers d'avoir conservé envers et contre tout leurs idéaux, leurs rêves et leurs convictions que l'avenir ne peut être que dans une société communiste doivent l'exprimer. Même dans les élections, on peut lever le drapeau de la révolution sociale. Et aujourd'hui, alors que la faillite de ceux qui dirigent l'économie est plus que jamais patente, eh bien il faut qu'il y ait des femmes et des hommes qui lèvent ce drapeau du communisme révolutionnaire. Candidats se placent du point de vue des affaires de la bourgeoisie. Et ils se creusent pour aider les capitalistes à être plus compétitifs, plus innovants, plus rentables. De l'extrême droite jusqu'à Mélenchon, les candidats se différencient et s'opposent parfois sur les règles à mettre en œuvre. Mais il s'agit toujours d'aider les entrepreneurs, de faire prospérer leurs affaires. Quand ils parlent de protectionnisme ou de taxes aux frontières, c'est de la protection des affaires de la bourgeoisie dont ils parlent. Quand certains défendent le retour au franc, c'est pour expliquer que cela favorisera les exportations, le commerce. Mais que la paye soit en francs ou en euros n'est pas le problème des travailleurs. Le problème des travailleurs, c'est que c'est le patron qui fixe la paye. Et s'il y a de nouvelles taxes aux frontières, eh bien les travailleurs peuvent être assurés d'une chose. Ils paieront tout plus cher. Mais ils n'auront aucune garantie que les capitalistes daignent pour autant créer des usines et embaucher. Le problème de cette société, c'est que la majorité de la population ne peut vivre qu'en vendant sa force de travail, son intelligence, à une minorité capitaliste qui s'est appropriée toutes les richesses et tous les moyens de les produire. Protectionnisme ou libre-échange, franc ou euro, le problème pour les travailleurs reste entier. Il s'agit toujours de se faire exploiter. Alors, les travailleurs n'ont pas à se mêler de toutes ces discussions qui consistent à chercher la meilleure façon de s'en sortir, mais pour la bourgeoisie. Et ce qui est commun, d'ailleurs, à toutes ces discussions, c'est qu'elles se placent toutes dans le cadre de l'économie capitaliste, comme si c'était un horizon indépassable. Chaque candidat est d'ailleurs sommé de faire la preuve que les mesures qu'il propose sont bien réalistes et qu'elles ne remettent pas en cause la viabilité des entreprises et des affaires. Et attention, il ne faut pas gêner les plus riches. Vous avez vu tous le cinéma qui a suivi la dernière annonce de Hollande concernant la taxation à 75% des revenus dépassant le 1 million d'euros. Cette annonce, qui n'a tout de même rien de bien audacieux, a suffi à la droite pour pousser des cris d'orfraie. Certains y ont vu la mort du football français et d'autres même l'écroulement de tout le système. Alors, chaque candidat doit montrer patte blanche. Il doit chiffrer son programme, démontrer que son programme ne remet pas en cause l'équilibre économique, qu'il est compatible avec la domination du marché, compatible avec les intérêts de la bourgeoisie et respectueux, bien sûr, de la propriété capitaliste. Revendiquer l'interdiction des licenciements boursiers, cela reste dans les limites tolérables pour la bourgeoisie. Ça passe encore pour la bourgeoisie et pour tous ses porte-paroles, parce qu'il s'agit seulement de mettre au pilori l'attitude de certains grands groupes, tout en restant compréhensif vis-à-vis de la majorité. Et comme tout bon gestionnaire connaît la gymnastique comptable qui consiste à transformer un licenciement boursier en un licenciement nécessaire pour cause de compétitivité, eh bien une telle interdiction n'affole pas grand monde. Eh bien, il n'y a aucune raison de laisser dans cette élection le monopole de la parole à tous ceux qui n'imaginent rien d'autre qu'une politique favorable ou acceptable par la bourgeoisie. Il faut que dans cette élection se manifeste un courant politique qui se place du point de vue des travailleurs, du point de vue de ses intérêts vitaux et urgents, et exclusivement de ce point de vue-là. Il faut qu'un courant qui ne se soucie pas des intérêts de la bourgeoisie et qui mette en avant ce dont les travailleurs ont besoin. Il faut des femmes et des hommes qui affirment que ce qu'il faut imposer, c'est l'interdiction des licenciements tout court. Parce que personne, dans la période actuelle, ne peut accepter d'être mis sur le carreau. Personne ne peut accepter de perdre le seul moyen qui lui permet de vivre. Un courant qui revendique que les salaires augmentent et suivent le niveau des prix, parce que les travailleurs ne peuvent pas accepter d'être poussés vers la pauvreté. Et un courant qui affirme qu'il est vital, urgent, d'imposer et de contraindre la bourgeoisie à payer pour assurer et garantir les emplois, les salaires, les retraites, les services publics. Et ce, quoi qu'il en coûte à la bourgeoisie. Et si les profits d'aujourd'hui ne suffisent pas, eh bien il faut forcer les capitalistes à puiser dans les profits passés et même dans les fortunes privées accumulées au fil du temps. Regardez comment les plus riches hurlent à la mort dès qu'ils doivent payer un peu plus d'impôts. Dès qu'on touche à un de leurs cheveux, on les entend faire leur chantage. Ils savent se mobiliser, faire entendre leurs intérêts sans se soucier le moins du monde de la majorité de la population. Eh bien, il faut que les travailleurs ne se laissent pas faire sans rien dire. Les travailleurs aussi doivent faire entendre leurs intérêts et être prêts au bras de fer avec la bourgeoisie. Être prêts, y compris à dépasser les limites patronales, à dépasser le sacro-saint droit de la propriété privée. Ce qui sera déterminant dans l'avenir, c'est qu'il y ait des femmes et des hommes prêts à en découdre avec le patronat. Parce qu'avec la crise, la lutte de classe devient de plus en plus violente. Confrontés à cette crise, les capitalistes compensent leurs pertes en aggravant l'exploitation. Ce sont les cadences qui augmentent, les pressions pour en faire toujours plus, les minutes de pause volées, les heures supplémentaires qui sont oubliées sur la fiche de paye. Ce sont les accidents du travail maquillés, en arrêt maladie. Ce sont les intérimaires ou les stagiaires qui sont renvoyés du jour au lendemain et leur boulot qui retombe sur tous ceux qui restent. Tout est bon pour baisser la masse salariale. À commencer, bien sûr, par les licenciements et les fermetures de sites. Faire la liste des grands groupes capitalistes qui ont licencié ou supprimé des emplois depuis 3 ans est impossible. Ils l'ont quasiment tous fait. En 3 ans, 900 usines ont fermé en France, une par jour. Et il y a eu 1 million de chômeurs supplémentaires. 1 million qui s'est ajouté aux 3 millions de femmes et d'hommes déjà privés de travail. Comment, après cela, être surpris que plus de 8 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, que les restaurants du cœur sont assaillis? Et tout ça pourquoi? Eh bien pour que les dividendes des actionnaires soient préservés, pour que les fortunes des plus riches soient garanties. On nous dit que c'est la crise. Ah, personne ne peut le nier. Mais ce n'est pas la crise qui fait que le grand patronat s'en sort avec tous ses profits et que ce sont les travailleurs qui payent. Non, ça c'est le résultat de la lutte de classe. Alors beaucoup s'étonnent que dans ce contexte, il n'y ait pas plus de réaction de la part des travailleurs. Mais la crise que nous vivons est souvent comparée à la crise mondiale de 1929. Eh bien, il faut se souvenir qu'il a fallu attendre 1934 aux États-Unis, 1936 en France et en Espagne pour que les travailleurs trouvent le chemin des luttes et de la grève générale. Il a fallu des années pour que les travailleurs passent de la résignation, du désespoir impuissant, voire réactionnaire, à l'espoir d'inverser le cours des choses. Eh bien aujourd'hui, la matière explosive s'accumule dans la classe ouvrière. Et le moment de la révolte de millions de femmes et d'hommes viendra, tôt ou tard. Eh bien il faut que dans cette révolte, les travailleurs aient une politique, qu'ils sachent pourquoi se battre et comment faire pour inverser durablement le rapport de force avec la classe capitaliste. Le patronat est à l'offensive et il a, en la personne de Sarkozy, trouvé le porte-parole idéal et le serviteur zélé. Un serviteur zélé qui s'emploie dans la campagne à s'adresser à son électorat, les petits et les grands privilégiés pour qui les ouvriers et les fonctionnaires sont toujours trop bien payés pour ce qu'ils font. Tous ceux, parmi les commerçants et artisans, qui trouvent que les ouvriers ne travaillent pas assez, parce qu'ils ne font pas 35 heures par semaine, mais 45, 50 heures. Il s'adresse à cet électorat qui ne supporte pas que les travailleurs revendiquent et fassent grève et qui accuse les chômeurs et les jeunes sans travail de vivre au crochet de la société. Sarkozy a sorti la grosse artillerie contre les chômeurs, contre les travailleurs immigrés, contre les allocataires du RSA, qu'il accuse de ne pas vouloir se former et de ne pas vouloir se remettre au travail pour plaire à l'électorat le plus réactionnaire de droite et d'extrême droite. Mais Sarkozy veut aussi des voix des ouvriers. Alors, il essaye de refaire le coup du président du peuple, proche de la France qui se lève tôt. Mais il pourra visiter autant d'usines qu'il voudra. Il pourra, s'il veut, enfiler un bleu de travail. Ce n'est pas ce cirque qui en fera un candidat du peuple, parce qu'on en a soupé des promesses de Sarkozy. En 2007, il avait promis d'être le président du pouvoir d'achat. En cours de mandat, il avait promis de répartir les bénéfices à égalité entre les salariés, les actionnaires et l'entreprise. Vous vous en souvenez peut-être, c'était l'histoire du un tiers, un tiers, un tiers. Après cela, il a promis une prime de 1 000 euros qui est restée du vent pour la très grande majorité des travailleurs. Mais comme les promesses n'engagent que ceux qui y croient, eh bien Sarkozy continue. La semaine dernière, il a promis une augmentation sur les petits salaires. Il y a bien sûr une escroquerie, parce que c'est une augmentation de salaire qui est payée par les salariés eux-mêmes. Puisque d'une main, le gouvernement augmente les petits salaires, pendant que de l'autre, eh bien, il supprime la prime pour l'emploi. Si Sarkozy revient au pouvoir, il faut au contraire s'attendre à des baisses de salaire. C'est ce que Sarkozy prépare au travers des fameux accords de compétitivité. Sarkozy veut donner la possibilité aux patrons de baisser le temps de travail, mais surtout les salaires, selon les aléas de l'économie. Que les patrons confrontés à une chute de l'activité baissent le temps de travail de chacun pour garder tous les emplois, ce ne sont pas les travailleurs qui s'en plaindront. Mais les salaires de tous doivent être garantis. C'est le patronat qui doit assumer les hauts et les bas de sa propre économie. Parce qu'on ne peut pas, nous, accepter de perdre 200, 300 euros sur sa fiche de paye alors que les salaires sont déjà insuffisants. Si les patrons veulent réduire le coût de leurs produits, eh bien qu'ils diminuent la part consacrée aux actionnaires sous forme de dividendes, mais sûrement pas les salaires. Avec la reprise de l'usine Le Jaby, dit Saint-Jo, par son ami Bernard Arnault, une des premières fortunes du pays, et avec le rachat de Photowatt par un autre de ses amis, Proglio, le patron d'EDF, Sarkozy a enfilé le costume de sauveteur d'entreprise. À la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne, Sarkozy a débloqué plusieurs millions pour que le pétrolier Shell s'engage à acheter son pétrole pendant 6 mois. Dans la semaine, Sarkozy a promis d'aider Mittal, l'actionnaire d'ArcelorMittal, pour qu'il redémarre le haut fourneau de Florange au second semestre. Pour prolonger au moins le temps de la campagne présidentielle, l'activité de quelques grands groupes, Sarkozy est prêt à payer des millions aux capitalistes. C'est un investissement qui ne garantit en rien les emplois des travailleurs, mais qui peut servir à Sarkozy au moins à garantir le sien. Mais sur le fond, il n'y a rien de nouveau avec cette politique. La politique industrielle de Sarkozy, mais comme celle de la gauche, a toujours consisté à inonder de millions les capitalistes pour que ces messieurs veuillent bien continuer leur exploitation. Il s'agit toujours de les aider, de les inciter, de les appâter avec des millions. Mais l'État, les collectivités locales peuvent mettre des millions sur la table. Ce sont les capitalistes qui décident. Et ils font ce que leur profit leur dicte. Souvent, ils en profitent, comme c'est le cas du groupe Bertelsmann, dont Mario a parlé, pour l'usine Sonopresse de Forbach, puisque Sonopresse a multiplié par 10 sa mise de départ, justement grâce aux millions d'argent public. Et aujourd'hui, eh bien, il n'est pas gêné de mettre la clé sous la porte et de fabriquer 51 chômeurs de plus. Les pouvoirs publics usent et abusent de la carotte. Mais quand un âne ne veut pas avancer, eh bien il n'avance pas. Alors non, la seule garantie pour les emplois et pour les salaires, ça serait de contraindre et de forcer les grands groupes à les préserver. Il faudrait les obliger, dans cette période de crise, à maintenir l'activité et à répartir le travail entre tous leurs sites, entre toutes leurs usines. Il faudrait imposer à Shell, ce groupe richissime, qui est client de la raffinerie Petroplus et qui a besoin de ce pétrole et qui a d'ailleurs une responsabilité écrasante dans la quasi-faillite de la raffinerie, à la faire vivre. Il faudrait imposer à Mittal d'entretenir et de faire tourner Florange sur ses propres deniers, et même si cela fait baisser son taux de profit. Mais cela ne fait évidemment pas partie de l'univers mental du président de la République. Mais Hollande n'a pas non plus ce courage. Hollande s'est rendu en personne à Florange. Et il a, comme tu l'as dit Mario, promis de déposer un projet de loi qui n'engage en rien le patronat. Et on voit mal d'ailleurs comment un repreneur serait prêt à s'aventurer sur les plates-bandes d'ArcelorMittal, le roi de l'acier. Alors, toute cette agitation fébrile de deux candidats rivaux n'est qu'enchère électorale, avec la peau des travailleurs menacés. Les travailleurs n'ont bien sûr rien à attendre de Sarkozy et de ses coups de bluff, mais ils n'ont rien non plus à attendre de Hollande. Hollande ne veut rien imposer à la bourgeoisie. Il ne veut pas la contraindre à quoi que ce soit. Alors voilà aussi pourquoi Hollande ne s'est pas engagé sur les salaires. Que ce soit sur la promesse des contrats de génération, sur la création des emplois dans l'éducation ou sur la retraite, Hollande s'en tient au strict minimum, tout en expliquant que ces maigres mesures sont en plus conditionnées à la croissance et qu'il faudra payer la dette d'abord et avant tout. Alors, si les travailleurs ont bien des raisons de vouloir se débarrasser de Sarkozy, ils n'en ont aucune, vraiment aucune, de faire confiance à François Hollande. pour départager la gauche de la droite, il y a les discours sur la fiscalité. Et cette semaine, en annonçant une tranche de 75% sur les revenus dépassant le million d'euros, on peut dire que Hollande a eu son petit effet. Nous, qui voulons faire payer les riches pour tous les dégâts qu'ils causent, nous ne sommes pas contre. Mais c'est une mesure qui est très symbolique, qui ne concernera qu'une poignée de très riches, qui en plus trouveront mille et un moyens d'échapper aux griffes fiscales. En réalité, pas plus sur ce terrain de la fiscalité que sur d'autres, le Parti Socialiste ne fait preuve d'audace. Sous Raffarin, en 2005, la tranche de l'impôt sur le revenu, que Hollande veut monter à 45%, était de 48%. Et elle était de 60% sous Giscard. Sous le même Giscard, l'impôt sur les bénéfices était de 50%, alors que Hollande n'imagine pas le monter à plus de 35% pour les grands groupes. Et pourtant, Giscard n'avait rien d'un bolchevique. Alors, Sarkozy et Hollande vont s'écharper sur des variations de quelques pourcents sur les plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu, sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur la fortune, comme si la justice fiscale en dépendait. Mais il ne peut pas y avoir, ne serait-ce qu'un début de justice fiscale, sans mettre fin à la TVA et à toutes les taxes indirectes qui l'accompagnent. Parce que la TVA, eh bien, c'est l'impôt d'abord qui rapporte la moitié des recettes de l'État, et surtout parce que c'est l'impôt le plus injuste. C'est l'impôt le plus injuste parce qu'il est payé au même taux que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, et qui pèse même en proportion bien plus sur les pauvres qui consomment la majorité de leurs revenus. La TVA devrait être supprimée, et sa suppression devrait être compensée par une imposition plus forte sur les revenus du capital, c'est-à-dire sur les revenus de l'exploitation. On nous présente comme une grande idée de gauche que les revenus du travail soient taxés au même niveau que les revenus du capital. Mais la justice serait que seuls les revenus de l'exploitation soient taxés et que l'on supprime l'impôt sur les salaires. Ce ne serait qu'un rendu pour un volet. Alors de cela, il n'est évidemment pas question pour Hollande. Dans son discours du Bourget, Hollande s'en était pris à la finance. Mais une semaine plus tard, il est revenu avec un tout autre langage vis-à-vis des marchés financiers. Il a, au contraire, essayé de donner des gages aux financiers de la City en expliquant qu'il n'avait rien à craindre parce qu'en France, il n'y avait plus de communistes. Que cela plaise ou pas à ses partenaires du Parti communiste, qui ne demandent qu'à gouverner avec lui s'il est élu, n'est pas rentré en ligne de compte pour François Hollande. Le problème de Hollande était d'expliquer clairement aux possédants que si les socialistes revenaient au pouvoir, eh bien ils ne gouverneraient pas à gauche et qu'ils seraient comme à leur habitude des gestionnaires loyaux et responsables. Il a même tenu à souligner que la gauche au pouvoir avait très bien su privatiser et libéraliser la finance. Et cette semaine, à l'occasion d'une visite à Londres, il a encore insisté auprès des financiers de la City en expliquant « Non, je ne suis pas dangereux ». Eh bien, nous ne pourrons pas dire que nous n'avons pas été avertis. Si futur gouvernement socialiste il y a, il fera ce que la finance lui imposera. Et nul doute que si la crise s'aggrave, que le gouvernement soit de droite ou qu'il soit de gauche, eh bien, il imposera aux travailleurs les mêmes sacrifices imposés aux travailleurs grecs aujourd'hui. Les amputations de salaires et de retraites, la démolition des services publics et le chômage forcé. Alors on entend de tous les côtés dire qu'il faut battre Sarkozy, que cela sera moins pire. Mais si, cela peut être pire. Cela peut être pire parce que la crise peut se poursuivre et s'aggraver, et que ce soit Hollande ou Sarkozy, les coups tomberont. Et si les coups viennent de la gauche, ça ne les rendra pas meilleurs. Alors, plutôt que de nous bercer d'illusions, préparons-nous à nous défendre par nous-mêmes. Les travailleurs et les plus pauvres ont appris à leurs dépens que l'arrivée de la gauche au pouvoir ne changeait rien pour eux. Tous les gouvernements qui se sont succédés, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont toujours laissé les patrons faire ce qu'ils voulaient quand ils ne prenaient pas fait et cause pour eux. Y compris les gouvernements de gauche, ceux de Mitterrand et de Jospin, et même quand ils avaient fait des promesses aux travailleurs. Alors certains, et c'est la grande majorité, se disent que cela ne sert plus à rien d'aller voter. Mais si le vote ne peut pas changer la vie des travailleurs, eh bien il offre l'occasion d'exprimer sa colère. Pourquoi mettre son poing dans sa poche et se taire quand on a l'occasion d'exprimer une colère consciente et d'exprimer son accord sur un programme de lutte? Et puis parmi les plus amers et parmi les plus désorientés, il y en a même qui seraient tentés par le vote Front National. On les a tous essayés sauf elle, disent-ils. Mais ils se trompent. Parce qu'avec Sarkozy au pouvoir, on l'a eu la politique de la droite extrême. Le Pen n'est pas au gouvernement, mais avec Guéant et Sarkozy, une partie de sa politique y est déjà. Croire que l'on peut rejeter tous les hommes politiques en votant pour le Front National, c'est se tromper lourdement. Marine Le Pen veut comme les autres aller à la Mangeoire. Elle pense avoir trouvé un créneau porteur, un créneau abject, qui s'appuie sur les préjugés racistes et chauvins pour se faire une place dans le système. Mais elle est comme les autres. L'extrême droite, associée au pouvoir, ce serait la classe ouvrière mise au pas. Parce que les travailleurs, Marine Le Pen les aime, mais elle les aime comme le patronat les aime, c'est-à-dire avec le doigt sur la couture du pantalon. Elle s'adresse aux travailleurs qui sont résignés, elle s'adresse aux travailleurs qui sont désespérés. Mais quand les travailleurs se battent, quand ils font grève, elle est la première à hurler avec les loups. Alors voter Le Pen signifie rejoindre, ne serait-ce que par le bulletin de vote, la cohorte des nostalgiques des guerres coloniales, les calotins en tout genre, les ennemis avérés de la classe ouvrière et ceux qui tirent toute la société en arrière. Pour les travailleurs conscients, il ne peut pas en être question. Je serai peut-être la seule à le dire, alors je ne m'en priverai pas. Notre avenir à nous, le monde du travail, n'est pas au fond des urnes. Quel que soit le futur élu, nous devons nous préparer à nous défendre, à nous battre pour imposer nos intérêts vitaux. Pour préparer l'avenir, il nous faut un programme de lutte. Le premier objectif, c'est d'abord et avant tout imposer l'interdiction des licenciements. Dès que les commandes et l'activité diminuent du fait de la crise, dès même que le patronat anticipe une baisse de la production, il renvoie les intérimaires, les CDD, il supprime des emplois, aggrave les conditions de travail pour ceux qui restent. Le patronat maintient le même niveau de rentabilité et de profit malgré la crise parce qu'il se sert des travailleurs, de leur emploi et de leur salaire pour amortir les pertes. Eh bien, s'il y a moins de travail à faire, il faut forcer le patronat à répartir le travail entre tous les travailleurs, qu'il baisse les cadences, qu'il diminue les horaires, mais qu'il garde tous les travailleurs et qu'il garantisse les salaires, qu'il répartisse le travail sur tous, mais qu'on maintienne les salaires à 100%. Et puis, il faut embaucher dans les services publics. Il suffit d'écouter le personnel hospitalier surchargé, les infirmières, les aides-soignantes, incapables de prendre leurs jours de repos pour comprendre qu'il faut embaucher dans les hôpitaux. Alors oui, il y a de quoi embaucher aussi dans les écoles, à la poste, dans les transports. Et il faudrait même développer de nouveaux services publics. Parmi les domaines où la défaillance du secteur privé est manifeste et dramatique, même par les temps qui courent, il y a le domaine du logement. Chaque année, à la même période, on a le cœur déchiré de voir ces femmes et ces hommes à la rue, forcés de dormir dans leur voiture ou dans des taudis à peine chauffés. C'est d'autant plus révoltant que le problème ne date pas d'hier. Et c'est d'autant plus révoltant que la solution est tout à fait à la portée de l'État. Pourquoi ? Alors que l'État supporte, par exemple, l'essentiel des dépenses de l'industrie privée de l'armement. Et je tiens à rappeler que rien que le programme du Rafale aura coûté aux contribuables français 40 milliards d'euros. Alors pourquoi ? alors qu'on trouve l'argent pour cela. On ne trouverait pas de quoi préempter les terrains et développer un service de construction. En embauchant directement les maçons, les ingénieurs, les architectes, l'État pourrait le faire directement, sans en passer par les marchands de béton et autres spécialistes de fausses factures. Voilà comment on pourrait construire le million de logements qui manquent aujourd'hui cruellement. L'intérêt des chômeurs... Oui, l'intérêt des chômeurs se conjugue avec l'intérêt de toute la société pour imposer qu'il n'y ait pas moins de personnel dans les services publics, mais qu'il y en ait plus. Et il faut aussi imposer des augmentations de salaire et des augmentations des pensions de retraite et obtenir leur indexation sur les prix, c'est-à-dire l'échelle mobile des salaires. Ces dernières années, tous les prix ont augmenté. Et depuis 2005, le gaz à lui seul a augmenté de 60%. Et dernièrement, le gouvernement s'est réjoui parce que l'augmentation au 1er janvier ne serait que de 4,5%. Mais quel est le salaire? Quelle est l'allocation ou la pension de retraite qui a augmenté de 4,5%? Et à cela, eh bien, il faut rajouter l'augmentation des loyers, des charges, des carburants, des produits alimentaires. Et puis c'est sur la santé que le gouvernement a imposé les sacrifices les plus lourds. Les franchises médicales, les déremboursements de médicaments se multiplient à tel point que se soigner devient un problème pour beaucoup. Et il n'y a que Sarkozy pour dire que l'inflation n'est pas un problème. La plupart des patrons eux-mêmes le disent. À commencer par ces patrons des péages d'autoroutes qui ont justifié le relèvement de leurs tarifs justement par l'inflation. Dans la réalité, tous les groupes capitalistes s'appliquent à eux-mêmes l'échelle mobile. Dès qu'ils subissent une hausse de leurs achats, eh bien ils la répercutent sur les prix. C'est facile pour eux, puisqu'ils fixent leurs prix. Ils peuvent les adapter comme ils veulent. Il n'y a que les travailleurs qui ne sont pas maîtres de leurs revenus. Ils ne décident ni de leur salaire, ni de leur pension de retraite. Alors, à chaque hausse de prix, il faut que les salaires, comme les retraites, le RSA, comme les allocations logement familial, comme l'allocation adulte handicapé, augmentent automatiquement. Pour ne pas se laisser appauvrir, quand tous les prix augmentent, il faut remettre d'actualité la lutte pour l'échelle mobile des salaires. Aujourd'hui, la bourgeoisie nous dit qu'elle n'a plus d'argent. Qu'augmenter les salaires, ce n'est pas possible, que le pays a un problème de compétitivité. Les mêmes qui nous expliquent qu'ils ne peuvent plus cotiser pour la santé, pour la famille, pour les retraites, versent 200, 300 fois le SMIC à leur PDG. Ils versent des dizaines de millions aux grands actionnaires, millions qui seront ensuite dilapidés dans des caprices de riches, ou pire encore, dans la spéculation. Eh bien, il faut que la lumière soit faite sur l'argent qu'il y a réellement dans les entreprises. Les travailleurs ont le droit de connaître ce que l'entreprise verse en salaire, ce qu'elle économise, du fait des multiples exonérations de cotisations sociales, du fait des niches fiscales, ce que l'entreprise verse en dividendes à ses actionnaires, ce qu'elle met en provision. Les patrons nous rabâchent que les travailleurs coûtent cher. Mais combien leur rapporte un salarié? Et combien leur coûtent les actionnaires? Toute la société a intérêt à ces contrôles. Parce que les grosses entreprises ne se contentent pas d'exploiter leurs ouvriers, elles veulent aussi les consommateurs, leurs fournisseurs ou leurs clients quand ils sont moins puissants. Eh bien, il faut que l'on puisse connaître les conditions faites aux sous-traitants, les marges que les uns imposent aux autres, et y compris les dessous de table. C'est un objectif qui doit réunir les travailleurs des villes et les travailleurs des campagnes. Et il arrive quelquefois aux petits paysans, étranglés par les prix trop bas imposés par la grande distribution, de faire des actions pour montrer la différence entre le prix que les grandes chaînes leur versent et le prix auquel le consommateur achète. Eh bien, ce sont des initiatives dont les travailleurs doivent s'inspirer, parce que les salariés ont infiniment plus de possibilités encore que les petits paysans pour procéder à ce type de contrôle. Ils sont en position pour dévoiler les petites et les grandes magouilles et pour montrer le vol à grande échelle qui caractérise l'activité économique de ces grands groupes capitalistes. Plus qu'un droit au contrôle, il faudrait même parler de devoir civique, parce que c'est la seule façon de dénoncer et d'empêcher les crimes patronaux, ceux perpétrés par les banquiers, par les spéculateurs irresponsables, mais ceux aussi perpétrés par ces patrons qui sont prêts à sacrifier la santé de leurs salariés au nom de la rentabilité, comme ce fut le cas de ces patrons qui ont empoisonné des dizaines de milliers de travailleurs avec l'amiante. En levant le secret bancaire et le secret commercial, on permettrait aux comptables, aux secrétaires, aux magasiniers, à tous les travailleurs de divulguer les informations qu'ils ont. Les salariés sont souvent les premiers à tirer la sonnette d'alarme, simplement parce qu'ils sont aux premières loges et parce qu'ils voient tout ce qui se passe. Alors il faut leur donner les moyens légaux de tout dire de ce qu'ils voient sans être menacés de licenciement ou de mesures de rétorsion. Il faut supprimer le secret des affaires. Cette mesure serait une revendication essentielle lors d'une lutte générale, parce qu'elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs, en donnant de nouvelles armes aux travailleurs. Il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs et des fausses informations. Les travailleurs sauraient à quoi s'en tenir. Ils pourraient anticiper, s'organiser face aux attaques patronales et prendre l'initiative pour les empêcher de nuire. Ce serait un premier pas pour contester le pouvoir de direction de la bourgeoisie, un premier pas pour contester la dictature du grand capital. Nous ne doutons pas que la situation poussera tôt ou tard des millions de femmes et d'hommes dans la rue. Mais la colère et la détermination ne suffiront pas pour gagner. Il faut encore que les travailleurs sachent pour quels objectifs ils doivent se battre, pour quelle politique. Populariser ce programme de lutte est la meilleure façon de préparer les luttes qui sont à venir. Et chose importante, dans cette lutte, nous pouvons compter sur nos frères, les travailleurs immigrés. Les politiciens de la bourgeoisie continuent de débattre entre ceux qui rejettent l'idée même d'accorder le droit de vote aux travailleurs immigrés et ceux qui sont pour le leur accorder, mais seulement pour les élections municipales. Eh bien, c'est honteux. Bien sûr que tous ceux qui vivent, travaillent et se font exploiter ici devraient avoir le droit de vote, et dans toutes les élections. Mais les réactionnaires de droite et de gauche qui s'opposent à cette idée et qui s'opposent à la régularisation de tous les sans-papiers, ne l'emporteront pas au paradis des urnes. Parce qu'en cas de grande lutte, eh bien tous les travailleurs se retrouveront côte à côte, français ou immigrés, avec ou sans papiers. Ils se retrouveront tous dans la même fraternité de la lutte collective, de la lutte des travailleurs de toutes origines et de toutes nationalités contre les capitalistes de toutes nationalités. Et dans ces luttes, la jeunesse qui a toujours été à la pointe de la contestation aura un rôle majeur à jouer. Alors dans cette campagne, je m'adresse aussi aux jeunes. À tous ces jeunes des quartiers populaires qui, après avoir été exclus de l'école trop tôt, sont baladés de petits boulots en longue période de chômage. Ils savent que la vie de leurs parents n'a pas été rose. Mais avec la crise et le chômage, ils se disent que pour eux, ça sera encore pire. Je veux m'adresser aussi à tous les jeunes des quartiers populaires qui subissent le contrôle au faciès et qui sont marginalisés et qui sont accusés ensuite à longueur de journée de tous les maux de la société. Aux jeunes diplômés aussi, qui rêvent peut-être d'une carrière à la Steve Jobs ou à la Bill Gates, mais que la réalité cloue aujourd'hui au comptoir d'un McDo ou à la caisse d'un supermarché. Eh bien, je dis à tous ces jeunes qu'ils ont raison d'être révoltés. Qu'est-ce que c'est que cette société où une minorité peut gagner sur une bonne affaire en quelques semaines ou parfois en quelques minutes ce que ne gagnera jamais aucun travailleur tout au long de sa vie? Qu'est-ce que c'est que cette société où on trouve des milliards pour les banquiers, pour les marchands d'armes et où on nous dit qu'il n'y en a plus pour construire des logements, pour construire des écoles ou des hôpitaux? Qu'est-ce que c'est que cette société où l'argent, les profits, le luxe comptent plus que la vie humaine? Alors oui, cette société, elle fonctionne à l'envers. Et elle est condamnée à disparaître. Mais elle ne disparaîtra pas toute seule. Il faut des jeunes, et des jeunes conscients du combat à mener. Il faut des jeunes qui ne s'arrêtent pas aux différences de religion, de sexe, d'origine, de couleur de peau, aux différences de métier. Différences parce que les uns sont au chômage, alors que les autres sont encore au travail. Il faut des femmes et des hommes conscients de partager un sort commun, conscients de faire partie d'une seule et même classe d'exploités, capables de changer cette société. Sans même parler de la transformation de la société en profondeur, aucun grand progrès pour les travailleurs n'est venu des gouvernements. Tout ce que les travailleurs ont obtenu, ils l'ont arraché au patronat, par leur grève, par leurs manifestations. Il n'y a jamais eu de sauveur suprême pour les travailleurs. Les victoires, ils les ont toutes arrachées, de haute lutte. Mais plus on approchera des élections, et plus on nous fera croire que notre bulletin dépend du bulletin que chacun glissera dans l'urne. Il y a déjà une pression, implicite ou explicite, sur l'électorat de gauche pour le vote utile, c'est-à-dire pour le vote en faveur de Hollande dès le premier tour. Que ceux qui sont convaincus par Hollande votent pour lui, c'est dans l'ordre des choses. Mais ceux qui ne lui font pas confiance, et ceux qui ont encore en mémoire et sur le cœur les déceptions laissées par le Parti Socialiste chaque fois qu'il a gouverné, n'ont aucune raison de voter pour lui au premier tour. Ceux qui ont compris. Ceux qui ont compris que Hollande fera ce que le patronat exigera de lui et qu'il les laissera seuls face à leur patron n'ont aucune raison de voter Hollande au premier tour. Il faut que Hollande sache que même si la haine vis-à-vis de Sarkozy lui a permis d'être élu au second tour, une fraction au moins de l'électorat ouvrier ne lui fait aucune confiance. Quant à Mélenchon, il attirera un certain nombre d'électeurs de l'électorat populaire critiques justement vis-à-vis de Hollande. Ces airs de tribun, ces envolées contre les puissances de l'argent peuvent plaire. Mais tout cela pour nous faire croire que le salut pour les travailleurs viendra d'un changement de gouvernement. Et Mélenchon ne s'en cache pas. Son modèle en la matière, c'est le gouvernement Mitterrand. Mais combien de travailleurs ont placé leurs espoirs dans Mitterrand, qui promettait de changer la vie, qui promettait même une rupture avec le capitalisme? Et combien parmi eux se sont sentis trahis parce qu'il a fini par se comporter comme n'importe quel patron, en bloquant les salaires, en licenciant à tour de bras dans la sidérurgie et en glorifiant la bourse? Alors, des faiseurs d'illusions gouvernementales, il y en a toujours eu. Et toute notre politique consiste à les dévoiler auprès des travailleurs, à les prévenir des mauvais coups et des désillusions, à les armer politiquement pour affronter l'avenir. Je serai la seule dans cette élection à ne pas dire « Votez pour moi, je ferai ceci ou je ferai cela et tout ira mieux. » Voter pour ma candidature, ce sera exprimer la conviction que si les élections ne peuvent pas changer la vie, eh bien la lutte collective des exploités en a la force et la possibilité. Les journalistes me demandent souvent sur un air de reproche, et ils le faisaient aussi avec Arlette Léguier, « Mais puisque vous pensez qu'on ne peut pas changer les choses par les élections et qu'il faut une révolution, alors pourquoi vous présentez-vous ? » Eh bien, pourquoi pas ? Les élections servent d'abord et avant tout à s'exprimer. Et pourquoi faudrait-il que nous taisions ? Des générations de travailleurs se sont battues pour avoir le droit de s'exprimer et de voter. Eh bien, des peuples se battent encore aujourd'hui pour conquérir ce droit en Égypte, en Syrie, au Sénégal. Nous, ce droit, nous l'avons. Eh bien, nous devons nous en servir, y compris pour dire « Les élections ne changeront rien à la vie des travailleurs. Ce qui peut changer, c'est que les exploités inversent le rapport de force. » Alors, voter pour ma candidature, c'est affirmer l'on n'est pas dupe devant ces alternances électorales. Voter pour ma candidature, C'est affirmer qu'il y a, parmi les travailleurs, des femmes et des hommes qui savent que quel que soit le futur gouvernement, ils se retrouveront seuls face aux diktats patronales et qu'ils se préparent à se défendre. Bien sûr, le vote ne remplace pas les luttes, mais les luttes se préparent dans les têtes. Et on peut contribuer à les préparer dans les têtes de tous ceux qui nous entourent en popularisant un programme, des objectifs autour desquels on peut s'unir et se battre. Pour que les luttes futures ne soient pas dévoyées, emmenées dans des voies de garage qui ne changent pas le rapport de force entre la classe possédante et la classe des exploités, les travailleurs doivent savoir pourquoi se battre, et contre qui se battre. Si, dans cette élection présidentielle, nous nous retrouvons plusieurs centaines de milliers autour de ce programme de lutte, eh bien ce sera un pas considérable qui préparera la suite qui se déroulera là où tous les changements se décident, c'est-à-dire dans les luttes. Oui, ce sera un vote utile. Alors, camarades et amis, en nous aidant dans cette campagne électorale, vous participerez à notre combat commun, à la propagation de toutes ces idées et de ces objectifs qui seront décisifs. Votez et faites voter pour ma candidature, et une fois l'élection terminée, continuons ensemble ce combat.